Monsieur le Président.
On a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois.
Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas.
J'ai laissé l'appétit de Robert Navarro pour les...
De ce point de vue-là, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français.
Bah, dans l'antre des belettes, il y a le loup, le renard et la belette. Comme il se doit, ils ne sont pas isolés. Une bestiole politique, et quelle bestiole, a accepté de leur tenir compagnie. Elle répond au nom de Anne-Yvonne Le Dain, les députés de la Nation, vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon, membre éminente du conseil éditorial de Proboscopie, et j'en passe. Alors c'est pas tout ça, revenons au sérieux de la chose. Et voyons ce que ça donne quand on tente de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, même si cela nous intéresse. Allez, une petite proboscopie.
Mais j'ai beaucoup aimé la référence au petit couillis ou au gros ventru.
Bon.
Pierre Perret est parmi nous.
Et voilà. Merci. Bon. Alors, Anne-Yvonne Le Dain, le pouvoir a-t-il encore le pouvoir?
Ça, c'est une vraie question. Mais votre introduction laissait entendre, est-ce que le pouvoir est encore le pouvoir puisque ce ne sont plus les hommes qui l'exercent seulement? Parce que c'est ça la grande interrogation psychanalytique en ce début du XXIe siècle. Est-ce que les mâles sont mis en péril parce que les femmes... je n'ose pas dire les femelles, arrivent en parité. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est dans un changement de temps et que c'était bien nécessaire.
Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir a le pouvoir?
Le pouvoir a
le pouvoir. Là, vous êtes au sein, même au cœur du pouvoir législatif,
notamment. Il fixe les règles du jeu. Et il fixe les règles du jeu et il a un pouvoir d'influence. Alors, effectivement, nous ne sommes plus dans une société d'économie mixte à la française qui a été celle de Gaulle et qui a été longtemps celle de François Mitterrand. Et que M. Chirac et ses successeurs ont avaient un peu abandonné. Nous y revenons en définissant un cadre précis et en disant des choses fortement. Lorsque François Hollande dit Google, bon, d'accord, c'est formidable, mais bon, va falloir quand même passer un peu à la caisse. Quand on dit Amazon, c'est bien, mais va quand même falloir passer un peu à la caisse. Eh bien, ça, c'est des mots forts. Et c'est ça, c'est les mots forts, discrètement, posés, calmement, qui font que... plutôt que des principes vociférés qui font qu'à Bruxelles, les choses changent et avancent. Il y a un pouvoir d'influence qu'on marque par la loi. C'est ce qu'on a fait avec l'AMI, en disant « mais mettez-vous d'accord, patronat, syndicat ».
L'AMI, l'ultralibéral socialiste de l'OMC.
Il n'est absolument pas ultralibéral et l'OMC n'était pas concerné par l'AMI. Donc, c'est l'accord. Je vous adore.
Bon.
Donc, quand on a dit vous mettez d'accord et qu'on a deux syndicats de salariés et un syndicat majoritaire de patronat, c'est le MEDEF avec la CFDT et la CFTC. Et quand j'entends en permanence à longueur de papier ou d'antenne que c'est l'accord avec le MEDEF, non, c'est l'accord avec des centrales syndicales et on a sécurisé de la précarité. Non, ça va, c'est bon. Hein. Et on a sécurisé...
On a sécurisé...
Non, mais attendez, moi, je veux bien que vous passiez votre temps à dire... On dise en permanence que c'est illégitime parce que c'est pas majoritaire, mais il n'empêche que l'accord est signé et qu'il s'applique parce qu'ils sont représentatifs. La CFDT était majoritaire pas tellement longtemps avant non plus. Donc, c'est un autre débat. Nous avons fixé des choses et il n'empêche que tous les salariés auront désormais une mutuelle qu'ils n'auront pas à payer. Que ça ne soit pas suffisant, que la question de la précarité, que la question de l'intérim ne soit pas encore réglée, nous sommes d'accord. C'est le chemin. Mais la politique, c'est la construction d'un chemin
viable. Visiblement, il y a débat sur cette histoire de mutuelle pour la totalité de tous les salariés. Visiblement,
il y a débat sur la manière de le faire, par branche ou pas par branche.
Conseil, un truc, mais pas une obligation stricte, parce que les mutuelles pour les grosses entreprises, bon, déjà, elles existent, ou même pour les vrais PME, ça existe aussi. Qui ont 200...
Je sais pas ce que sont les vrais PME pour vous.
Je précise, 200 ou 300 salariés ou 400 salariés. Quoi.
Donc, mais il y en a tellement peu. Voilà. Est-ce que vous savez, combien il y a d'entreprises de plus de 650 salariés indépendantes en France, qui ne soient pas filiales de grands groupes? Il y en a 650.
Donc, c'est dérisoire.
Il y en a 2000 en Allemagne, oui. Il y en a 4000 en Italie.
Est-ce que ce n'est pas un premier pas à la privatisation de l'assurance maladie?
Ça n'a rien à voir.
Ben, si.
Mais non. C'est un autre débat. C'est la répartition de la partie caisse primaire et de la partie mutuelle.
Dans la mesure où ça concerne tout le monde, à partir de ce moment-là, c'est plus facile de faire basculer dans le privé.
Mais vous préférez quoi? Que les salariés soient obligés de se payer? La question est importante. Mais vous préférez quoi? Que beaucoup de salariés, notamment des PME, parce que toutes n'ont pas de mutuelle payée par l'entreprise,
qui
doivent être obligés sans leur salaire de payer leur mutuelle, ou plutôt que de signer un accord qui fasse
je voulais en arriver au TPE et au
beaucoup plus cher.
C'est beaucoup plus lourd. Et qu'à partir de ce moment-là, après ce moment-là, on n'ait plus besoin de mutuelle.
Non, mais moi, je voulais en arriver aux TPE, qui sont quand même l'essentiel, l'essentiel de, des entreprises, et des toutes petites entreprises qui ont 1, 2, jusqu'à les 10 salariés.
Non, bon. Non, mais vous pouvez monter à 200. Hein.
Non, 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 mais je parle justement délibérément des TPE. Ceux-là, les salariés des TPE, n'ont pas de mutuelle payée par l'entreprise.
Mais la plupart de ceux qui font 50, 100 ou 200 salariés n'ont plus.
Oui, mais une entreprise qui a 1 ou 2 salariés, ou 3, si elle doit payer les mutuelles, je caricature, je vais vite, à la limite, elle court à la faillite.
Mais ça lui coûte beaucoup moins cher que de payer les heures supplémentaires. Ah ou d'augmenter les cotisations. Ça lui coûte beaucoup moins cher, c'est tout. Donc on a une, au bout du compte, l'accord, il est vertueux. Parce qu'on sécurise l'immense, la grande précarité. C'est-à-dire les contrats, les microscopiques CDD de 2 à 3 semaines. Et il y en a des wagons.
Et vous parliez de couple. Vous parliez de couple.
On a beaucoup d'entreprises qui embauchent pour 11 heures, 15 heures, notamment dans le monde des médias, vous le savez. Hein. On l'a sécurisé. L'AMI, c'est ça aussi.
On parlait de couple. Justement, dans les couples français, il arrive souvent que monsieur ou madame, peu importe, ait une mutuelle, une d'entreprise, et que son conjoint ou sa conjointe se met sur sa mutuelle. Avec cette nouvelle loi, qu'est-ce qui va se passer ?
Oh là, vous m'en demandez trop. Très honnêtement, je ne vais pas regarder dans le détail.
Ah oui, parce que là,
mais aujourd'hui, je me permets de vous signaler qu'il y a beaucoup d'entreprises, qui ont une mutuelle d'entreprise et qui la rendent obligatoire. Parce que parce que la mutuelle avec laquelle ils font affaire dit « moi, je prends tout le monde ou personne ». Ça s'appelle une négociation. Oui. Donc, le moi, par exemple, et ça, on l'a réglé il y a quelques années en mettant en place le fait que quand dans un couple, il y avait un des deux avait déjà une mutuelle, que l'autre n'était pas obligé de la prendre. Ça, on l'a réglé. Mais ça n'a pas été le cas pendant longtemps, hein. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Hein.
Bon, abandonne-nous.
Voilà, on avance. Cette question-là, elle est vraiment très, d'accord, très importante, mais il n'empêche que l'AMI, ça a sécurisé la grande précarité. Ça a sécurisé, en matière de mutuelle et de santé, énormément de salariés.
On suivra l'affaire
de près. Quand je dis la grande précarité, mais c'est vraiment la grande précarité.
Je veux qu'on en revienne, qu'on vienne un peu à Montpellier. On ne va pas la jouer.
Je voudrais quand même préciser, je ne suis pas députée que de la Paillade. Je suis députée de la deuxième circonscription.
Bien sûr, bien sûr.
Et elle va de la Paillade à l'Aiguillon, en passant par le Montpellier, centre-ville et Gambetta, en prenant Figueroa et en prenant les Cévennes. C'est la moitié de la ville et c'est une belle circonscription.
Justement, parlons Montpellier. On ne va pas la jouer série télé, quoique entre Hélène, Jean-Pierre et Philippe, ça pourrait mériter. Bon, y a un casting qui a été mis en œuvre mercredi dernier. Il y avait un projet de casting. Alors là, y avait les trois candidats, ou trois et demi candidats. Il y avait les députés, il y avait André Vézinet, il y avait Bourquin, etc. etc. C'est simple. Hein. Salut, raconte ce qui s'est passé pendant qu'on attendait là. Alors, tu ne dis rien, pourtant tu pourrais bien penser à mes copains, parler du rendez-vous chez les Solferiniens, là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Solferino, là, le 5?
Écoutez, nous avons prêté serment que nous ne parlerions pas et que nous entrons en négociation. On a 15 jours pour travailler, et on travaille.
Alors, on est entre nous, là. On est entre nous.
Mais entre nous, bien sûr. Il y a combien de milliers d'auditeurs? C'est un bonheur, entre nous, à Divergence FM. J'adore votre radio. 93.9, je le rappelle.
Non, mais tout le monde le sait que personne n'écoute Divergence, mais si on dit une connerie, tout le monde le saura. Dans le texte, c'était du Sylvain Jambon. C'est un peu l'esprit tonton flingueur, ou pas?
Non, c'est l'esprit trouver une solution. Et avancer.
Dans la série, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Personne n'a dit ça.
Non, mais c'est...
Je vous précise, personne n'a dit ça.
Non. Alors.
Mais entre tonton flingueur et tout le monde est beau et tout le monde il est gentil, il y a des solutions intermédiaires qu'on peut trouver.
Oui, on peut flinguer avec le sourire.
Et si on ne trouve pas d'accord, on ira à des primaires citoyennes, oui. Je crois que c'est la bonne idée.
On ira à des primaires citoyennes, parce que si on va à des primaires citoyennes, d'après les sondages, après il faut voir les sondages de ce qu'on peut en faire, quoi. Mais chacun s'accorde à dire que des trois candidats majeurs, celui qui a le plus de notoriété, c'est celle qui a le plus. C'est Hélène Mandrou. Donc primaire citoyenne, ça veut dire que c'est Mandrou qui gagne. Si on fait les primaires internes, chacun s'accorde à dire, c'est Moore qui gagne. Et or, Hélène Mandrou a fait savoir. Parce que si vous avez peut-être fait un serment, etc., elle a dérogé. Puisqu'elle a fait savoir que, quoi qu'il en soit, s'il y avait primaire citoyenne, elle n'y participerait pas.
C'est son choix.
C'est quand même, c'est un peu le bazar, quoi.
C'est comme ça.
C'est un peu le bazar. Donc, il n'y a vraiment pas de solution. Et bien, parmi les trois, on est entre nous, là. Lequel aurait vos faveurs ?
Jean-Pierre Moore.
Jean-Pierre Moore.
Jean-Pierre Moore, mais parce que pour des raisons très, comment vous dire, ça va peut-être vous surprendre et vous choquer, pour des raisons presque affectives. Je crois que la politique se fait avec une stratégie, des actions, des rapports de force, une vision, mais également de la fidélité, de la fiabilité. J'ai du mal à accepter que Hélène Mandroux ait porté une liste, à la demande de Martine Aubry, mais ait porté une liste contre Georges Frêche, dont elle avait été le premier adjoint et qui l'avait faite maire de Montpellier. J'ai un peu du mal à l'accepter. Je le lui ai dit et je l'ai dit à l'occasion de cette réunion. Elle l'a entendu. Mais après, je suis quelqu'un de raisonnable. Et puis, je suis quelqu'un de raisonnable.
Et puis, votre suppléant quand même, Philippe Sorel.
Philippe est formidable, mais Philippe est toujours sur les marchés 3 heures avant moi, quoi. Donc c'est formidable, ça, surtout pendant la campagne.
Est-ce qu'il arrive avant l'heure prévue ou parce que tu es en retard ?
Parce que je suis à l'heure et que c'est un peu, voilà, c'est amusant, disons que bon, Philippe est très perso, mais c'est pareil, il a des qualités. Donc si on trouve un accord, c'est pas mal.
Alors, un bon accord, ce serait quoi ?
Ah, oh, mais ne me demandez pas ça maintenant. Écoutez, on est en train de négocier. Vous êtes formidables, les journalistes. Vous voulez vous tuer les accords d'emblée.
Mais non, mais à force de laisser du temps en temps, on
laisse
vous faire gagner du temps. Là, on peut le négocier tout de suite. Là, et puis dans 10 minutes, ça y est, c'est fait.
On est parfaitement dans le timing. Mais pour autant, je suis quelqu'un de raisonnable.
Hélène Mandroux, candidate. Philippe Sorel, premier adjoint.
Est-ce qu'on peut poser la question autrement ?
Jean-Pierre, président de l'Aglo.
Non, mais est-ce qu'on peut poser la question autrement ? C'est-à-dire, non pas quelle est l'opinion des différentes personnalités qui avaient été invitées autour de la table. Solferino, quelle est l'opinion de Solferino ?
Solferino a écouté, a entendu. Solferino a écouté et entendu. Il nous a dit, on travaille encore 15 jours, on voit mercredi en 8. Et comme par hasard, les agendas de tout le monde se sont libérés, alors que les agendas de tout le monde étaient pleins.
Mais est-ce
ce fameux mercredi 19. Comme par hasard, ça veut dire que tout le monde sent la... Oui, mais ce que je vous dis par rapport à l'agenda, c'est important.
Mais un accord, ça veut dire un partage.
Une solution. Mais si on va à des primaires ouvertes, je tiens quand même à vous faire un scoop, je me présenterai.
Il y a des... Ah, ben c'est... Voilà. Non, mais quand même, Anne Yvonne, on se connaît depuis longtemps. Quand je dis qu'éventuellement 66,35% des voix sur une circonscription qui recouvre un peu Montpellier, ça doit ouvrir des perspectives, non ?
Soit on trouve une solution, soit on n'en trouve pas. Si on n'en trouve pas, j'irai à des primaires ouvertes. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'héritier. Il y a des combattants dans la vie.
Admettons qu'Hélène Mandroux revienne sur sa position. On pourrait avoir Hélène Mandroux candidate, Jean-Pierre Moore, Christian Bourquin qui s'intéresse à Montpellier, André Vézinet qui a dit s'il y a des primaires ouvertes, j'y vais, tu y vas, etc. Mais si c'est des primaires vraiment ouvertes et que donc il y a même les Verts, Roumégas va arriver en tête. Et donc il sera tête de liste et Jacques Domergue a toutes les chances dans ce cas-là d'être maire de Montpellier.
Primaire ouverte, ça ne veut pas forcément dire primaire ouverte à tous les courants politiques de la gauche.
Je suis désolé, c'est ce qui s'est dit.
Mais écoutez, vous êtes journaliste, vous êtes proche du monde politique, vous savez comment ça fonctionne. Les choses ne sont pas stables. Moi, je pense qu'il faut un accord, mercredi en 8. Voilà. Et qu'on aura un accord.
Est-ce que tout simplement Hélène Mandroux.
Et qu'on aura un accord.
Est-ce que Hélène Mandroux ne tient pas sa légitimité, tout simplement, parce que c'est la mère sortante ? Et d'autre part, parce que c'est pas la seule, parce qu'il y a Martine Aubry aussi. Enfin, elles ne sont que deux femmes à être maire d'une grande ville de France. Est-ce qu'elle ne tient pas sa légitimité de ces deux choses-là ? Elle est femme, deux, elle est mère sortante.
Je suis femme aussi.
Oui, mais vous n'avez pas la légitimité d'être déjà maire. Non, d'être
mais
déjà
ne me demandez
maire
pas de,
mon,
de vous apporter des réponses d'un travail qui a démarré mercredi dernier et qui se poursuit pendant 15 jours. On travaille. Ça s'appelle de la gestation, ça s'appelle du travail, ça s'appelle de la négociation, ça s'appelle
la réflexion, c'est la réflexion de l'urgence.
Comme le disait la Bolette, ça va accoucher de cadre de cette histoire-là.
On va trouver une solution. Et on va trouver une solution. Et je trouve que ça sera bien.
Mais
on trouvera une solution, je suis confiante.
Puisqu'on en est dans les hypothèses les plus folles, j'ai vu qu'il y avait une très grande fluctuation dans la barre qui avait été mise pour le passage au statut de métropole. On était à 700 000, puis c'est redescendu en dessous, puis au-dessus. Donc une fois Montpellier, Grenoble, etc. n'y étaient pas. Et puis finalement, il semble que la barre va se stabiliser juste au-dessus de la possibilité de Montpellier d'être dans l'aglo. C'est pas un petit coup de Solferino auprès du groupe socialiste de l'Assemblée pour dire pas Montpellier parce que comme ça, ça va les obliger à aller à un accord. C'est vrai que si Montpellier ne devient pas agglomération,
métropole.
Le rapport de force ou disons l'explication qui dit il faut être en même temps maire de Montpellier et patron de la métropole ne se pose plus.
Eh ben c'est malin.
Donc non. Ce n'est pas forcément faux.
Je vous réponds, c'est malin.
Je n'étais pas à Solferino.
Moi non plus, mais ça n'a pas été dit. Mais bon... Jean-Pierre, vous êtes l'ancien chef de cabinet de Georges Frêche, c'est l'ancien chef de cabinet d'André Vézinet. Et donc, vous connaissez parfaitement le monde politique.
Je demanderai à mon ami Tropeano, parce que c'est un sénateur, il est sage.
Non, mais ça n'a pas été dit, ça. Ça n'a pas été dit pendant la réunion.
Ah ben non, mais des trucs comme ça,
ça ne se dit
pas.
Mais on est dans une situation compliquée. On n'est pas la seule ville de France où on est dans une situation compliquée. Ça n'a rien de dramatique et ça se résoudra.
Bon. Bon, on va parler.
Et l'important, c'est que les Montpelliérains...
Comme disait mon papa, quand un problème n'a pas de solution, c'est qu'il est mal posé.
C'est ce que je suis en train de vous dire. On est en train d'avancer. Et tous ceux qui parlent... voilà. En off ou en on, voilà. Bon, c'est une manière...
Savoir, oui.
Voilà, je suis... Et moi, vous ne me forcerez pas à parler.
Non, mais...
Vous donnez ma parole.
Mais il n'est pas question. Parlons un peu projet, parce que chacun s'accorde à dire que Montpellier, de la surdouée, deviendrait la sous-douée.
Mais non.
Est-ce que c'est exagéré ou...
Mais non, bien sûr que non. Georges Frêche a construit une ville formidable. Nous avons actuellement, dans le monde universitaire, la fusion des universités Montpellier 1, Montpellier 2, qui est un grand moment.
Oui,
qui sera
oui mais Montpellier 3,
essentiel.
Out.
Oui, mais les choses évoluent. On ne peut pas forcer les gens dans une machine qui n'a pas envie de se forcer. Je dois reconnaître et dire que dans la période précédente, celle où on a raté l'IDEX avait tant de talent, ce qui me meurt de moi. Hein. La manière dont, au travers du presse, l'Université de Montpellier 3 n'était pas forcément traitée avec la célérité et la confiance nécessaire, je peux comprendre qu'ils aient dit non. Parce que c'est vrai que leurs étudiants, par exemple, n'avaient la médecine... Bon, vous savez, au départ, le presse, il y avait la médecine des étudiants, la médecine étudiante. Et en fait, ils avaient décidé, à l'époque, de prioriser sur les étudiants à risque, c'est-à-dire ceux qui font de la chimie et ceux qui font de la médecine, de la santé. Effectivement, qui sont en contact avec des produits ou des maladies. Mais il n'empêche que, par exemple, on a une académie où beaucoup d'étudiants sont boursiers et n'ont pas forcément d'une santé formidable et ou une fragilité personnelle et qu'ils ont aussi besoin de la médecine étudiante. Et donc, Montpellier 3, je comprends très bien qu'ils se soient retirés de ce dispositif en disant, écoutez, moi, je reprends mon médecin parce que j'en ai besoin pour mes étudiants. Donc, j'ai beaucoup de respect pour la position de l'Université Montpellier 3. Sur le long terme, je pense que ça sera nécessaire. Mais on ne fait rien contre des gens. Surtout quand ils ont des raisons pas forcément stupides de s'être un peu retirés du système. Je crois qu'il faut respecter non seulement la parole des gens, mais la profondeur de leur pensée. On va vers une fusion Montpellier-Montpellier 2. C'est nécessaire pourquoi ? Parce qu'il y a de la biologie santé à Montpellier 2, il y a de la biologie santé maintenant à Montpellier 1, alors qu'il y a 15 ans, c'était surtout le CHU, la biologie santé à Montpellier. Montpellier 1, on faisait peu, il y avait les facultés de médecine qui formaient, mais il y avait peu de labos puissants. Et c'était la biologie santé, c'était surtout Montpellier 2 qui l'a porté. Et il y a 15 ans, on a vu apparaître à Montpellier 1, avec Jacques Demaille, puis avec Uziel, des présidents qui ont investi. Et maintenant, on a un doyen à la faculté de médecine qui investit. Et donc là, on ne peut pas avoir à Montpellier deux universités qui font la biologie santé. Et c'est un poids lourd. Biologie santé à Montpellier, ça pèse sur l'échiquier national, lourdement. Et donc, on a besoin de ça. Nos entreprises ont besoin d'avoir, autour de la technologie, au cours de l'innovation, autour de la robotique, de l'informatique, de la chimie. La chimie, c'était pareil. La chimie était éparpillée entre Montpellier 1, Montpellier 2 et l'école de chimie. Le pôle Ballard rassemble les labos, rassemble l'enseignement. Il est donc normal et nécessaire que Montpellier 1 et Montpellier 2 se rassemblent. C'est ça, la fusion. C'est pas seulement des querelles d'égo, de gens qui se disputent. C'est parce qu'il y a une logique institutionnelle, professionnelle, éducative et scientifique derrière.
C'est le principe des clusters.
C'est le principe des clusters. Et sur Montpellier 3, on y viendra. Mais en attendant, il est nécessaire que, et c'est fait au niveau de la science, l'ISEM, c'est-à-dire l'ISEM, l'Institut des sciences de l'entreprise de Montpellier 1, et le CREGO, qui était le gros IAE de Montpellier 2, et bien maintenant, ils sont dans une unité de recherche commune. Donc, on va dans ce sens-là. Il faudra faire pareil pour AES. Et il faudra donner de la puissance à ce que Montpellier 3 fait sur les arts et la culture et sur les langues. On est un des seuls, la dernière université française après Paris à faire de l'égyptologie, à faire des langues anciennes, à enseigner. Voilà, on a plein de choses. Et ça, mais il faut faire les choses pas à pas. Tout, qui trop embrasse, mal étreint.
Alors, revenons une dernière fois, et très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette provoscopie, reparlons un tout petit peu de métropole. Donc, il semblerait qu'on s'achemine vers le fait que Montpellier ne sera pas métropole, au moins dans
un
premier temps.
Mais non, on l'aura, la métropole.
Bon, imaginons que non.
Ah, ça c'est autre chose, je peux imaginer, oui.
Oui, imaginons que non. Est-ce qu'à ce moment-là, Montpellier ne serait pas condamné à redevenir un gros village endormi ?
Bah si, c'est le challenge. Oui, il faut qu'on soit métropole, bien sûr.
Donc quand vous disiez tout à l'heure, ce serait malin le fait qu'on reste agglo et non pas métropole.
J'ai pas du tout dit ça, moi.
Ah, si, ça a été dit tout à l'heure.
Hein. Ah non, je n'ai pas du tout dit ça. Non. Vous avez parlé d'agglo à la place de métropole.
Oui.
Non, il faut parler de métropole, bien sûr. Non. Moi, je veux qu'on soit une métropole, bien entendu.
Et au niveau projet pour la ville, je suppose que vous avez lu Montpellier 2020, enfin le livre Sursaut là, de Montpellier 2020, et puis le petit opuscule de Patrick Vignal. L'un comme l'autre, ça a quelle utilité et
ça est-ce pose que ça... des choses, ça pose des choses, ça pose des noms, ça pose. Ça, tout le monde en parle. Ça veut dire que des gens attendent quelque chose. Ça veut dire que ça crée de l'intelligence. Ça permet de poser des mots, de porter des phrases, d'exprimer des choses. Et comme ça, progressivement, eh bien de voir un projet se dessiner, un nouveau projet se dessiner.
Ce serait quoi le nouveau projet qui
devrait...
Vous ne
demandez pas, je ne peux pas tout faire là, je pourrais un jour vous donner...
Dès que vous allez être candidate citoyenne...
Non, mais on va trouver une solution.
On ne manquera pas de vous réinviter immédiatement dès que vous êtes candidate aux primaires citoyennes. Ça pourra faire un joli débat.
Si c'était le cas, ça voudrait dire une démission du poste de député, de région, etc.
Bien sûr.
Ah, pas pour les primaires.
Après, bien sûr. Si Yvonne se présente aux primaires et qu'elle est désignée, elle espère être quand même élue maire de Montpellier.
Ah, bah à ce moment-là, j'allais presque dire obligatoirement, techniquement. Si elle est la candidate de gauche.
Sauf si c'est un coup diabolique et qu'elle mène la liste et qu'elle repasse au dernier moment le flambeau à Jean-Pierre Moore, par exemple, pour être maire de Montpellier alors que personne ne s'y attend.
Oh, vous avez l'esprit machiavélique, cher Jean-Pierre Foubert.
Pas du tout.
Non, c'est simple.
Une hypothèse, tout est possible en
politique. Non, moi je suis quelqu'un de simple.
Bon, donc on a bien compris. Donc Anne-Yvonne Le Dain se présente aux primaires, elle les remporte, elle gagne la ville, et dès qu'elle a gagné la ville, son premier adjoint, Jean-Pierre Moore, elle lui laisse la place. Et du coup, en septembre 2011, c'est Anne-Yvonne Le Dain qui devient sénatrice et non pas Hélène Mandreau, et elle retourne à ses charges d'études.
Moi je crois qu'il faut aussi rappeler aussi que la politique...
Il a placé puisque Hélène Mandreau est nommée secrétaire d'État à la réforme de la fonction publique hospitalière.
Oui, mais dans ce pays, on a un seul mot pour deux choses. Et c'est un peu un problème. Et là, c'est le mot politique. Et on a politique politicienne, c'est-à-dire les petites histoires entre le personnel politique qui se dispute ou pas pour des postes, et il y a politique publique. Et c'est un drame. Parce que la politique, c'est fait pour faire des politiques publiques. Et pour faire des politiques publiques, il faut construire et accepter et admettre qu'il faut gérer des rapports de force. Mais la politique, ça sert à construire des politiques publiques et donc une politique pour cette ville, pour cette agglomération, pour cette région, pour ce pays.
Want to send check, c'est okay.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.